Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je crois que la parole de Dieu est véritablement une lampe, une lumière pour éclairer nos âmes, nos cœurs, nos esprits. Vendredi dernier, pour ceux qui étaient présents à la réunion d'évangélisation, nous avions parlé de Noël sur la terre. Alors, on en a un petit peu le reflet, hein. Enfin les reflets, il y en a beaucoup autour de nous, beaucoup d'illumination, beaucoup de choses, ça c'est du clinquant. Et nous avions parlé justement du phénomène de la naissance de Jésus, parce que il y a tout un ensemble de choses que la Bible nous révèle sur la naissance virginale, sur des questions qui sont, c'est vrai, assez difficiles à appréhender. La naissance virginale et la résurrection de Jésus, c'est, comme nous l'avons dit, un petit peu le Waterloo des incrédules et puis de ceux qui doutent, hein. Pas facile. Mais Dieu nous a fait la grâce, en tous les cas, de croire sa parole. Pour nous, en tous les cas. Et nous voulons garder, je pense qu'il y a des millions et des centaines de millions de chrétiens qui ne discutent pas sur ce que Dieu a déclaré, parce que celui qui a été capable de créer la terre, le ciel, le firmament, les étoiles, pour lui c'est rien du tout, hein. Naissance par le Saint-Esprit, mais naissance par le Saint-Esprit d'un enfant, mais naissance aussi par le Saint-Esprit d'un homme, hein, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors on avait parlé d'un peu de tout ça, et puis aujourd'hui on va passer à une autre dimension. On va parler de Noël dans le ciel. C'est peut-être assez surprenant, mais il s'est passé quelque chose dans le ciel. Alors d'abord, on va relire Noël sur la terre. Évangile de Matthieu, on va le relire, ce passage que nous avons vu vendredi soir, finalement, et de toutes les répercussions qu'il y a eu dans les lieux célestes. Alors on commence par Noël sur la terre, Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, verset 18. Je relis tout l'ensemble de ce que nous avons vu vendredi. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dire: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était enquis soigneusement auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus quand Hérode fut mort. Je m'arrête là. Quand Hérode fut mort, un roi s'en va, un roi meurt, et le monde de Caïn, vous voyez ce que je veux dire, le monde de Caïn va bientôt s'éteindre. L'espérance de tous les justes à travers tous les temps. Et puis un roi apparaît, et un roi naît. Et avec lui, un monde nouveau jette ses premières lueurs d'espérance sur un monde enténébré depuis le premier péché, depuis le jardin d'Éden. Alors, il y a Noël sur la terre, et il y a Noël dans le ciel, et il va y avoir un choc titanesque, un choc cosmique, si vous me permettez l'expression. Parce que le régime qui s'en va, qui va disparaître et qui sera touché à mort avec la venue de cet enfant qui va devenir un homme, qui sera prophète, qui est Messie, qui est le Christ, eh bien, comme nous allons le découvrir, ce monde-là va être vaincu à travers Golgotha, à travers la résurrection. Mais ce monde-là n'a pas dit son dernier mot, même s'il a été vaincu. Puisqu'il va se défendre âprement. Puisque finalement, eh bien là, celui qui en est le prince de ce monde de Caïn, ce monde de sang, ce monde sanguinaire, ce monde de domination de l'homme par l'homme, eh bien, va livrer ses derniers combats. Et nous sommes aujourd'hui dans ce dernier combat. La victoire a été acquise. Et nous, nous pouvons prendre position dans notre foi en disant, mais Jésus est vainqueur. Christ est notre vainqueur. Mais néanmoins, eh bien, nous allons assister, à travers Noël dans le ciel, eh bien, à une déflagration qui sera d'ordre, d'une autre envergure, d'ordre spirituel, d'ordre cosmique, gigantesque. Alors nous avons terminé sur ces derniers mots vendredi. Pendant que les mages se prosternent et adorent, Hérode, le roi, a peur et il est en train de préparer quelque part, eh bien, une revanche de se débarrasser de Jésus. Tandis que les chefs religieux à Jérusalem et dans toute la Judée sont indifférents et continuent à discuter. Vous savez, depuis 2000 ans, les théologiens continuent à discuter. Ils parleront encore autant jusqu'à temps que Jésus revienne. Mais ce n'est pas les discussions qui font avancer les choses. Ce n'est pas les discussions qui font que l'évangile est annoncé. Ce n'est pas les discussions et toute la multiplication de sermons et tout ce que vous voudrez qui finalement eh bien, amènera le monde à se convertir à Jésus-Christ. Il faut autre chose. Alors nous avons vu cet ordre de Dieu à Joseph, fuis en Égypte. Et nous pouvons mesurer dans quel monde. Oui, effectivement, dans quel monde Jésus a fait son apparition pour qu'il soit plus en sécurité en Égypte que dans son propre pays. Ça, c'est un paradoxe. Hein. Dieu est obligé d'appeler, finalement, eh bien, son oint dans un pays de paganisme, dans un pays qui, quand même, a une résonance dans l'histoire biblique, puisque les Hébreux y sont allés, ils en sont ressortis. Normalement, ils ne devaient pas y retourner. Du temps de Jérémie, ils sont retournés, mais il y a eu aussi, là, eh bien, une malédiction qui est tombée sur eux. Mais nous voyons que Dieu va faire les choses encore différemment et va dire à Joseph, eh bien, tu vas fuir dans un pays païen, un pays d'idolâtrie, et tu vas aller finalement te réfugier dans ce pays-là. Vous savez que Dieu pense à tout. Si nous, on oublie des choses, le Seigneur pense à tout. Et il pense à la fois à la sécurité physique de l'enfant, et il a déjà pensé aux besoins matériels de l'exil. Parce que vous comprendrez que ce n'est pas pour rien que les mages ont apporté leurs présents. De l'or, entre autres, des aromates, mais de l'or en particulier. Et je suppose que ces cadeaux faits à l'enfant, eh bien, ont dû servir à couvrir les dépenses de l'expatriement de Joseph et de toute sa famille en Égypte. Voyez, quand Dieu conduit les choses, eh bien, il ne nous laisse pas au dépourvu. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Et c'est bien ce qui s'était passé, autant que je puisse m'en souvenir, que quand les Hébreux sont sortis libérés de l'Égypte, ils sont partis avec de l'or. Ils sont partis avec des trésors. Et ils en ont fait un mauvais usage, puisqu'à un moment donné, ils vont en faire un veau d'or. Ça, c'était pas prévu au programme. Mais toujours est-il, c'est ce qu'il nous montre qu'encore, eh bien, Dieu pourvoit, et ça, c'est le miracle de la foi. C'est le miracle de notre Dieu. Et quand nous avons pris ce texte, eh bien, nous avons lu aussi qu'Hérode se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants. La colère d'Hérode, c'est une colère dangereuse. Elle est épouvantable, elle est mauvaise. Mais qu'est-ce que la colère d'un Hérode peut changer au plan de Dieu? Ce petit roitelet. J'aime pas Hérode, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. J'aime pas la dynastie des Hérode. On en a déjà parlé. Hein. Parce que c'est l'homme vil. C'est l'homme qui se croit ce qu'il n'est pas. Il est assis sur un trône qui finalement, eh bien, n'est rien du tout. Et il s'imagine que quelque part, eh bien, il est pratiquement Dieu. Un de ses descendants, à Hérode, dans le livre des Actes, au chapitre 13, harangra la foule. Vous connaissez, là, cette histoire, après avoir fait tuer Jacques, décapité Jacques. Et lui, il sera frappé immédiatement par une sentence divine. Parce qu'il se croyait, ce qu'il n'était pas, il n'était rien du tout. Et pour nous montrer que plus on est haut placé, plus bas on tombe. Et ça, c'est une vérité, hein, qui subsiste encore. Aussi, Hérode ajoute-t-il à de nouveaux crimes à toutes sortes de choses qu'il avait fait. Et pourtant, on l'a appelé, cet Hérode-là, Hérode le Grand. C'est lui qui avait reconstruit le temple. Et il a été certainement un roi qui a eu un règne assez long et qui était un bâtisseur. Mais il a ajouté de nouveaux crimes, celui des enfants innocents. Et c'est terrible hein, quand on lit « Mais Rachel pleure ses enfants ». Parce qu'elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. C'est terrible, tuer des enfants. Oh, alors vous me direz, c'était pas la première fois que ça arrivait. Vous savez l'histoire de l'Égypte, les enfants d'Égypte, enfin les, hein, le massacre de Pharaon sur les enfants hébreux. Et puis, à travers tous les temps, il y a eu ce genre de phénomène, hein, ça s'est reproduit. Et je crois que nous vivons dans une époque épouvantable. Je le disais, on n'attend plus que nos garçons maintenant aient 20 ans pour les envoyer sur des champs de bataille, on les tue avant qu'ils naissent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible ça, hein. Connaîtront jamais la vie. 250 000, 300 000 enfants qui disparaissent tous les gens comme ça, tous les ans. C'est terrible. Hein. Alors des Hérodes, qu'ils soient avec une blouse blanche ou qu'ils soient avec un trône d'or ou d'argent sur la tête, c'est toujours la race de Caïn. Alors nous voyons qu'il va finir sa triste carrière de tyran et sa fin n'est pas loin. C'est le texte qui nous le dit. Et il ne survivra pas longtemps à son infâme forfait. Parce que nous avons terminé notre lecture quand Hérode fut mort. Ah ouais. On a commencé par une naissance, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, et on a terminé dans notre texte quand Hérode fut mort. Alors, nous avons une histoire parallèle maintenant. Et vous allez voir que ce n'est pas une histoire des hommes seulement, ce n'est pas une histoire d'hommes, ce n'est pas une histoire de conflit entre hommes, mais c'est une histoire de conflit entre Dieu et celui qui est l'adversaire, c'est-à-dire, eh bien, Satan. Alors pour ça, on va lire un autre texte, parce que c'est lui qui va nous parler de Noël dans le ciel. C'est dans Apocalypse, chapitre 12. Soyez bien attentifs, parce que ça nous donne une vision beaucoup plus élargie. Et si, vous savez, si les gens pouvaient comprendre ces choses, eh bien, ça changerait certainement toute la manière de vivre Noël. Les gens se convertiraient. Les gens comprendraient entre quelles mains ils sont tombés, et qui les mène, qui les inspire, qui les manipule. Alors, Apocalypse chapitre 12, et ça sera l'objet de notre méditation aujourd'hui. Un grand signe, verset premier, un grand signe parut dans le ciel. Alors vous allez voir que c'est assez similaire, hein. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se mit devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Ça nous rappelle le texte précédent. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé pour Dieu, afin d'y être nourri pendant 1260 jours. Et il y eut guerre, c'est terrible, hein. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et c'est le temps présent là, hein. On est dedans là maintenant. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Car il a été précipité de l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle fut nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Que Dieu nous bénisse ce matin à travers cette lecture. Alors vous savez, quand on aborde l'Apocalypse, il faut veiller à toutes sortes de spéculations, parce qu'il y a des choses intéressantes et faut rester dans le texte, tout simplement. Et c'est ce que nous allons faire. La naissance de Jésus n'a pas eu que des répercussions sur la terre des hommes, c'est ce que nous avons dit il y a un instant, mais il apparaît que c'est bien l'univers entier qui a été ébranlé par l'événement de la venue de Jésus. Un événement qui avait été déjà prophétisé, qui avait été repris, qui, au cours des âges dans l'histoire d'Israël, eh bien là, revenait de temps à autre en disant, mais regardez vers le ciel parce qu'il vient. Nous nous disons la même chose, il revient. Apocalypse 12, à en juger, présente une vision différente de Noël. Nous avons des mots qui sont similaires. C'est Noël qui est vu par les habitants du ciel. C'est le Noël, finalement, eh bien, que nous ne devrions jamais ignorer, qui est vraiment là, eh bien, l'autre face, le recto ou le verso de la même pièce, si vous voulez. Et de ne pas, finalement, se contenter, excusez-moi, hein, je n'ai rien contre, mais de tout le folklore qui endort. Hein. Tellement répétitif qu'il finit par lasser. Hein. Vous croyez au Père Noël ? Ah, personne ne répond, alors donc je suppose qu'il y a quand même quelque chose. Voilà, mais vous n'y croyez plus, je le sais, heureusement d'ailleurs. Si la naissance de Jésus a réjoui les hommes et les anges, puisque on le sait de par l'évangile de Luc, puisqu'il y a là eu une grande joie finalement, elle a fait trembler les incrédules, entre autres les scribes, les pharisiens, enfin les docteurs de la loi à Jérusalem, et puis Hérode. Et elle a fait trembler aussi les puissances invisibles du mal. Satan lui-même. Et il a su alors que sa fin était proche, parce que nous pouvons dire en résumé, Satan a été condamné à Bethléem. Il a été jugé à Golgotha. Il a été exécuté et achevé à la résurrection. Les trois. On pourrait parler de Trinité si on veut. Hein, de la condamnation et de l'évacuation de cet être malfaisant, être pensant et intelligent, mais être diabolique, satanique, infernal. Alors donc, condamné à Bethléem, jugé à Golgotha, exécuté et achevé à la résurrection. Entre la vision pastorale très touchante de Bethléem et le récit de la guerre cosmique de l'Apocalypse, parce que je crois que c'est comme cela qu'on peut nommer les choses, c'est une seule et même réalité. Il n'y a pas de différence. L'une est terrestre et l'autre est une vision céleste. Et derrière les symboles se profile toute l'histoire du monde d'un côté, dans lequel nous sommes, parce que nous sommes et nous faisons partie de l'humanité. Et nous ne pouvons pas nous désolidariser de cette humanité, nous sommes des hommes. À la différence, c'est que nous sommes des hommes rachetés, des hommes sauvés, et nous attendons. Et nous avons une espérance dans notre cœur. Mais c'est l'histoire du monde. Et on ne peut pas se désolidariser de tout ce qui s'est passé dans l'histoire, et on ne pourra pas même se désolidariser de tout ce qui va nous arriver. Hein. Moi, je crois qu'il va arriver des grandes choses sur la Terre. Hein. Alors, serons-nous là pour le voir? Verrons-nous le retour de Jésus-Christ? Serons-nous tout simplement apportés par l'amour naturel? Mais une chose qui est certaine, c'est que je crois que dans le temps qui nous reste à vivre, et aussi longtemps qu'il plaise à Dieu de nous garder sur la terre, nous allons voir des choses quand même. Je reste convaincu que nous avons quand même déjà, non pas un pied, mais les deux pieds dans l'Apocalypse. Regardez autour de vous. Jetez un coup d'œil sur l'effondrement moral, sur la confusion politique, sur la domination de l'économie dans notre monde, sur Israël. On va en parler d'Israël là, tout à l'heure. Alors, je pense que quand même, il y a des choses que nos ancêtres ou nos prédécesseurs n'ont peut-être pas vues. Alors, il y a l'histoire du monde d'un côté, puis il y a l'histoire, finalement, eh bien, de tout ce qui se passe dans le ciel. Puis il y a le christianisme, le christianisme authentique, celui de l'évangile. Vous avez remarqué avec moi, nous avons lu qu'il y a eu un grand signe dans le ciel. Mais n'est-ce pas un grand signe que nous révèle l'évangile de Matthieu lorsque ces mages venus de très loin d'Orient ont vu l'étoile? C'est un grand signe de Dieu, ça aussi. Vous voyez, il y a le parallèle. Je suis en train de mettre un petit peu en marche parallèle tout cela. Et il nous a dit qu'il y a une femme qui est apparue. Nous en reparlerons un peu plus tard dans l'explication, mais cette femme, je le dis pour les biblistes, si vous fouillez la Bible, c'est Israël. Parce qu'on a donné toutes sortes d'hypothèses. Et vous verrez que les autres hypothèses ne tiennent pas. C'est Israël, parce que Israël, c'est la nation élue. C'est la nation racine. C'est la nation qui a été choisie par Dieu. Et Jésus le dira bien à cette étrangère samaritaine quand il dira « Mais le salut vient des Juifs. » Et cette femme nous est présentée dans notre texte comme enveloppée de soleil. Et le soleil, c'est bien le symbole de la gloire de Dieu. Parce que Dieu est lumière, parce que Dieu est clair. Et toute la nation juive a été par son histoire, eh bien, une nation glorieuse, nous pouvons dire. C'est vrai qu'elle a eu ses abîmes, mais elle a eu aussi ses sommets. Alors, on peut parler d'une histoire glorieuse, une histoire d'Israël qui est imprégnée du miracle et du surnaturel. Si nous lisons l'Ancien Testament, eh bien nous verrons et nous découvrirons que, bon, il y a naturellement toute l'humanité de cette nation, mais à côté de ça, il y a la révélation, il y a les oracles de Dieu, il y a des hommes qui sont d'une dimension spirituelle extraordinaire qui vont conduire ce peuple. Donc, elle était enveloppée de soleil, et elle avait la lune sous ses pieds. Vous savez que la lune éclaire la nuit. Enfin, ça dépend à quel moment, hein, premier, deuxième, pleine lune, enfin, tout cela, on connaît ça un petit peu. La lune éclaire la nuit, mais on peut dire et on peut affirmer assurément que sa clarté, que la clarté de la lune ne vient pas d'elle. C'est la réflexion du soleil qui l'illumine et qui, en même temps, nous éclaire nous-mêmes. C'est par réflexion ou réfraction, si vous aimez mieux. Telle est la loi. Telle est la loi donnée à Israël, qui préfigure dans l'Ancien Testament le sacrifice de Christ, parce que tout convergeait. Alors quand je dis la loi, c'est la loi et les prophètes, c'est toute la révélation, naturellement. Et la nation d'Israël reposait, finalement, eh bien là, à cause de la révélation que Dieu avait donnée. Et c'est l'image, quelque part, de la gloire de Dieu qui passe à travers cette loi, cette parole qui était donnée à Israël, et qui nous parle et qui tend vers quelque chose que les Juifs ont passé complètement du temps de la naissance de Jésus et de la vie de Christ sur la terre, finalement, pour éclairer le moment le plus ultime de l'histoire de l'humanité, c'est le sacrifice de Jésus à Golgotha, et naturellement sa résurrection. Sous ses pieds, pour nous montrer que les Juifs devaient s'appuyer sur la loi et la révélation de Dieu. Et cette femme est couronnée de 12 étoiles sur sa tête, allusion évidente aux 12 tribus d'Israël, parce que la couronne a toujours été l'emblème du gouvernement. Parce que ça, c'était aussi la destinée d'Israël durant ce qu'elle a pu avoir, finalement. Mais c'est aussi la destinée d'Israël durant le millénium. Parce que c'est Israël qui va régner, qui va avoir la prééminence dans l'histoire des nations, qui va avoir la prééminence dans l'histoire du monde. Donc la femme, c'est bien Israël. Et maintenant, je vais donner quelques explications complémentaires. On a dit que c'était l'Église. Non. On a dit que c'était Marie. Non. Et je m'explique. La femme ne peut être certainement pas l'Église, puisqu'une mère précède toujours son enfant. Vous avez vu le contraire jusqu'ici? Une maman précède toujours son enfant. Or, l'Église n'a pas donné naissance à Jésus, mais c'est Jésus qui a donné naissance à l'Église. Et l'Église est née du sacrifice, est née des mains et des pieds percés de Jésus, de sa mort à la croix du calvaire. Donc on n'inverse pas les rôles. Et il y a pas mal de commentateurs qui se sont égarés dans toutes sortes de choses pour essayer de faire tenir le puzzle droit, mais ça ne peut pas tenir droit. Pas possible. Et la femme n'est pas non plus Marie, proposée par la théologie catholique romaine. Alors là, on en connaît un rayon parce que on en a entendu parler. Parce que comme d'habitude, cette explication qui nous vient de ces théologiens n'est ni biblique et encore moins évangélique. Réglons les choses tout de suite, hein, et ne racontons pas n'importe quoi aux gens. La Marie de l'Évangile, qui nous est dépeinte à travers l'Évangile de Matthieu et l'Évangile de Luc, a bien donné naissance au Christ incarné, au Christ pour la terre, sauveur des hommes, mais n'a rien de commun avec la dimension céleste du chapitre 12 de l'Apocalypse. Alors je dis que la femme, c'est bien Israël. Et on va voir maintenant la suite, parce que c'est intéressant, me semble-t-il. Elle criait dans les douleurs de l'enfantement, nous rapporte ce récit. Et vous savez, lorsque nous restons sur la pensée d'Israël, il y a une chose qui est exprimée à travers les livres poétiques, à travers, entre autres, les psaumes, à travers les soupirs et les attentes des prophètes de l'Ancien Testament, pour nous montrer qu'il y avait là Pendant des siècles et des siècles, en Israël, l'attente douloureuse du Messie, suscitée par des prédictions prophétiques. Et on pourra parler d'espérance d'Israël pour la venue du Messie. Un homme l'exprimera, qui sera à cheval entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est Siméon, quand il arrivera divinement averti d'aller au temple. Et il dira, cet homme attendait la consolation d'Israël. Et ça c'est, nous pouvons dire, elle criait dans les douleurs de l'enfantement. Israël, dans ses abîmes et dans ses sommets, eh bien, n'a jamais perdu de vue qu'il viendrait, finalement. Que Dieu enverrait un sauveur, un rédempteur, celui qui nous rachèterait. Mais quand il est arrivé, elle ne l'a pas reconnu. Ça, c'est aussi le paradoxe. Et puis, il y a un autre intervenant dans notre texte. C'est le diable. Alors, le diable, il est présenté à travers le verset 9. Il fut précipité le grand dragon. Alors, voilà les qualificatifs qui sont donnés. On le reconnaît, hein, il n'y a pas beaucoup besoin d'explication. Le serpent ancien, ça nous rappelle Genèse 3. Appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Cette séduction, nous l'avons compris, c'est une séduction mondiale. Même les rois de la terre sont entraînés à sa suite. Hérode en tête, parce que l'histoire commence avec, dans la proposition qui nous est faite dans Matthieu, on voit l'intervention d'un roi, Hérode en tête, qui, comme d'autres rois de la terre, auront des inspirations criminelles et diaboliques. Vous savez, hein, Hérode n'était pas le premier, il n'était pas le dernier. Et aujourd'hui, où en est finalement tous ces gens qui sont élevés en pouvoir, ou qui sont élevés au pouvoir, que font-ils du véritable christianisme de l'Évangile? La question, elle est là. Même sur le plan politique, que font-ils? Alors bien sûr, ils sont drapés du manteau du christianisme, ils sont drapés peut-être de toutes sortes de choses, mais qu'est-ce qu'ils font pour promouvoir l'Évangile et la foi en Jésus-Christ et la parole de Dieu qui donne la vie? Qu'est-ce qu'ils font? Et voilà que ce diable, ce dragon, était là devant la femme afin de dévorer son enfant. Et nous remarquons que Jésus venait à peine de naître, que Satan persuadait déjà le roi du temps, Hérode, de supprimer l'enfant. Plus tard, c'est encore Satan qui tentera Jésus au désert. Vous connaissez l'histoire, hein? Qui animera la colère des gens de Nazareth pour que Jésus soit précipité des pentes escarpées de leur pays. Et pourtant, ils le reconnaissent comme un enfant qui est né en leur village et en leur sein. Qui inspirera la haine la plus violente chez les chefs religieux, qui soulèvera la tempête lorsque Jésus sera dans la barque, parce que ce n'est pas une tempête normale ça, et puis qui prendra possession de Judas le traître, lui inspirant finalement sa trahison que nous connaissons. Et derrière tous les défis et toutes les injures de la croix, c'est encore lui, Satan, qui se précipite pour dévorer le Fils de Dieu. À chaque fois, Jésus a rencontré une opposition farouche qui passe à travers les lignes de notre évangile, de nos évangiles. Mais on comprend que ça a été une lutte à mort. La vie confrontée avec le prince de la mort, le prince du mensonge. Et si vous regardez la vie de Christ, eh bien là, à chaque fois, il est prêt à être dévoré. Et qu'est-ce que nous fait pas? Il a été remarqué que simplement ce déni de justice, lorsque Jésus a comparu devant Hérode et devant Pilate, il y a eu, je crois, 45 anomalies dans le procès de Jésus. Le diable était tapi. Et il attendait le moment favorable pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, pour se saisir et dévorer le Fils de Dieu. Tous les pièges, toutes les questions captieuses, toutes les questions insolentes, toutes les questions scandaleuses, toutes les questions les plus difficiles ont été proposées à Jésus. Et sous découvert, quelquefois, c'est étonnant. Mais le diable était devant la femme afin de dévorer son enfant. Et cet enfant fut enlevé vers Dieu, nous dit le texte. Et ça, c'est une belle expression qui évoque la résurrection et l'ascension. Le diable n'a rien pu faire. Il a cru. Lorsque Jésus est à la croix et qu'il a entendu et que le monde entier a entendu, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, il s'est dit à ce moment-là, c'est fini, terminé, je suis le vainqueur. Mais le tombeau n'a pas retenu Jésus. Et la résurrection a été la réponse, eh bien, de Dieu au diable, et puis l'ascension. Alors la femme s'est enfuie au désert. C'est une allusion probable à la dispersion d'Israël. Parce que c'est une réalité, la dispersion d'Israël. C'est une réalité jusqu'à nos jours. La diaspora, elle existe. Et même si le diable, dans ses dernières décennies, a voulu systématiquement éliminer Israël et les Juifs à travers des doctrines comme le nazisme, le fascisme, et on en entend parler encore aujourd'hui, comme si ce n'était pas suffisant. Il y aura encore des temps difficiles pour Israël. Je reprends le verset 7 et 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michaël ou Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Et ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Nous avons quelque chose au fond du cœur qui est la foi en Jésus-Christ. Et nous détenons un message de grâce, un message de délivrance, de libération, de salut. Mais il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que nous sommes au cœur du combat. Israël a été disputé, Israël est encore disputé. Mais nous allons arriver maintenant à la position de ce que nous sommes, nous. Nous ne sommes pas Israël, nous sommes l'Église. Et l'Église peut s'attendre aussi à des jours difficiles. Parce que nous croyons en cet enfant sauveur. Alors, c'est la description du grand combat spirituel dans l'invisible, dans lequel Satan et les démons sont totalement vaincus, la Bible nous le déclare. Mais est-ce que Jésus, plus tard, 30 années plus tard, ne dira-t-il pas dans l'évangile de Luc au chapitre 10, si je me souviens bien de la référence, « Je voyais Satan descendre comme un éclair, tomber comme un éclair. » Et aujourd'hui, nous ne devons pas être des chrétiens négatifs, mais nous devons plus que jamais fonder et assurer notre foi sur ces paroles de victoire que Jésus nous a données. On n'a pas à baisser la tête. Il y aura peut-être des temps de persécution physique, des temps de persécution matérielle, certainement. Des temps de persécution morale, nous y sommes. Des temps de persécution spirituelle, mais ne soyons pas des chrétiens qui marchons la tête dans les épaules en disant « Eh bien, il faut bien le subir, et puis un jour viendra la délivrance. » Non, nous pouvons proclamer que Jésus est vainqueur et que, réellement, notre adversaire a été vaincu complètement et totalement. Le diable vaincu, Jésus vainqueur. Et le ciel, vous remarquerez à travers ce texte, est débarrassé de l'imposteur. Mais si le ciel est débarrassé, malheur à la terre. Parce que maintenant, il y a eu un transfert. Dans les lieux célestes, l'Ancien Testament ne nous a pas tout dévoilé. Mais le Nouveau Testament, maintenant, nous met vraiment au fait de la situation. Et vous avez lu avec moi le verset 11, on peut le relire. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, les nations, si vous aimez mieux, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Frères et sœurs, il faut bien que nous prenions conscience dans quel monde nous vivons. Alors peut-être qu'on s'est représenté cet acharnement du diable à travers, mais ça a commencé comme cela, à travers les chrétiens de l'Église primitive persécutés à outrance. On l'a vu à travers ces réformes telles que la réforme protestante ou la réforme des Huguenots au XVIe et XVIIe siècle. C'était terrible, hein. Mais aujourd'hui, il semblerait que nous vivons dans des temps où on nous laisse tranquilles. Est-ce que vraiment on nous laisse tranquilles? Ah oui, on nous laisse vivre. On nous laisse encore avoir un emploi. Ça ne durera peut-être pas toujours. Vous connaissez, hein? Ça viendra. Mais au niveau spirituel et au niveau moral, Peut-être pouvons-nous emprunter les paroles écrites dans 2 Pierre, chapitre 2, en parlant de Lot, ce croyant, cet homme qui était juste, enfin vu par Dieu juste, et nous quand on voit Lot, on dit, alors, il a fait quand même drôle de choses dans sa vie. Hein. Ce juste tourmentait son âme de ce qu'il entendait, de ce qu'il voyait jour et nuit, en fonction de l'environnement dans lequel il était. Vous savez, c'est pas facile de vivre dans notre monde. Et on n'a pas tout vu, hein. On n'a pas tout vu. Donc, le ciel, depuis la victoire de Jésus, célèbre le débarras de l'adversaire dans le ciel, mais malheur à la terre, parce que c'est nous qui avons quelque part irrité de cette situation. Malheur à la terre. Depuis plus de 2000 ans, la terre est le théâtre de bataille où s'affrontent sans cesse le bien et le mal. Et quand on parle de bien et de mal, pensons à toutes les guerres dites religieuses. Et on n'a pas fini parce qu'on est en train de recommencer là. Après quelques décennies de matérialisme à outrance, on est en train de revenir vers le spirituel. Mais quel spirituel ? Alors, depuis tout ce temps, depuis le temps du christianisme, depuis le régime du christianisme, depuis l'avènement de Jésus, depuis qu'il est ressuscité, eh bien c'est vrai que nous sommes sur une terre où s'affrontent le bien et le mal, parfois même l'enfer semble habiter parmi les humains lorsque nous touchons du doigt. Et s'il faut arriver au XXe siècle pour savoir ce que les hommes sont capables de faire dans leur ingéniosité à détruire, grande concentration et bombes atomiques, etc., etc., on se dit, mais alors, vraiment le diable habite parmi les hommes. Et il habitera parmi les politiques, il habitera parmi les scientifiques, il habitera parmi les théologiens aussi. Parce que vous savez, on en reparlera. Je suis en train de méditer quelque chose sur les bombes idéologiques qui ont été lancées depuis 2 ou 3 siècles dans notre monde et qui est en train de tourner la pensée, le cœur, le sentiment, la réflexion des hommes à travers la philosophie. Toutes les sortes de philosophies. Le diable à beau jeu se dit maintenant, je tiens les hommes, je les mène comme je veux. Alors, quand on pense à la violence, quand on pense à la cruauté, quand on pense à l'immoralité, quelque chose de terrible à notre monde. Et nous sommes comme des poissons dans l'eau. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je le vis, hein. Enfin, en tous les cas, le chrétien ne le vit pas comme ça. Et heureusement. Mais regardez comme les gens sont heureux autour de nous. Formidable. Ils ne poussent pas la réflexion autre part. Excusez-moi, je ne suis pas là pour dénigrer. Je vous respecte la conscience et je respecte les gens. Mais quand même, ils sont malheureux comme la pierre. Ils sont tristes. Ils vivent des choses qui les déchirent et qui les amènent à s'affronter les uns contre les autres. Quand on voit, par exemple, cet effondrement de la société à travers la famille et les couples. Hein. Et puis non. Vous savez, le diable s'est ingénié. Je l'ai vu, je l'ai constaté. À travers les gens que nous rencontrons, avec lesquels nous parlons, quelle ignorance du message de l'Évangile et du message de la Bible. On a pu rencontrer avec ma femme 2 personnes cette semaine. On se dit, mais ce sont des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne connaissent rien de l'Évangile de Jésus-Christ de Dieu. Cette génération de des gens qui ont 30 et quelques années, 35 ans, ne connaissent rien. Peut-être que nous, les plus anciens, enfin, je ne me prends pas pour un vieillard, hein. J'ai encore les cheveux noirs. Hein. Non, je le dis au passage, parce que quelquefois, ils vont dire, oh, le pauvre homme, il est vieux. Non, non. Attendez, j'ai encore bon pied, bon oeil, hein. Alors, on s'aperçoit qu'il y a une génération qui vient là depuis une trentaine d'années, depuis les 30 glorieuses, où il n'y a plus de morale, où il n'y a plus d'enseignement, où il n'y a plus rien du tout, enfin enseignement sur le plan de la morale et sur le plan même, voire même religieux. Alors ça donne que les gens ne savent plus. Les gens ne savent plus rien du tout. Avant, il y avait encore l'histoire sainte. Bon, passons rapidement. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est véritablement une ignorance complète. Alors, il y en a un qui est en train de se frotter les mains parce qu'il est en train de préparer. Il est en train de préparer les temps qui viennent. C'est quand l'Antichrist va venir. Il va venir avec des moyens qui vont faire mouche du premier coup. Les gens seront prêts à l'accueillir. Moi, j'ai entendu un jour un homme me dire « Ah, mais ça serait bien qu'il y ait un super-homme sur la Terre. » Ouais. Si c'est Jésus, oui. Mais si c'est l'Antéchrist, ça sera autre chose. Ben oui, mais ça, c'est la mentalité. On a besoin d'un homme qui vienne changer un peu les choses. Enfin bon, je m'arrête là parce que je vais glisser vers la politique. Enfin, un homme ou une femme. Bon, j'arrête. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Vous avez remarqué cette petite phrase ? Il poursuivit la femme. Si on lit bien, l'antisémitisme, puisque je vous ai dit que c'était Israël la femme, a des raisons spirituelles. L'antisémitisme. Or, on s'est dit, ça n'existera plus après le procès de Nuremberg. Tiens. C'est terrible, mes amis. Terrible. Ouais. C'est une réalité, l'antisémitisme. Le dragon, alors à ce moment-là, précipité sur la terre, a poursuivi la femme. Alors c'est pour ça que on peut comprendre tout ce qui se passe. Cette haine, deux fois millénaire des Juifs. Et on continue. Et en cause, pour cause, eh bien c'est toujours Israël. Israël par le Messie. Parce que Israël a été quelque part l'instrument de Dieu qui a donné naissance à loin au Messie. Et le diable n'a jamais accepté sa défaite. D'Israël est sorti son vainqueur au diable. C'est pour ça que Jésus dira à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Du verset 14 à 16, on dépeint la protection et le secours providentiel, je passe, que Dieu a toujours accordé à la nation juive contre tous ses ennemis. Et vous savez, je voudrais dire que la survivance d'Israël, la survivance des Juifs depuis 20 siècles, tient du miracle. Ouais. Ça tient du miracle. Alors aujourd'hui, depuis 1948, il y a eu une résurrection nationale. Mais Seigneur, fasse qu'il y ait une résurrection spirituelle d'Israël. Et là, on ne sera pas loin. On ne sera pas loin. Parce que c'est un État laïque, hein, Israël, actuellement. Mais, il y aura quelque chose. Et vous savez qu'il y a de plus en plus de Juifs messianiques dans le monde. Merci Seigneur, hein, fils d'Israël qui se tourne vers Jésus pour l'accepter. Ouais. On est en train de préparer quelque chose là. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre. Alors là, c'est très intéressant. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Ça ne peut pas être les Juifs. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie, hein. Mais je relis. Il est allé faire la guerre à sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. On l'a dit, si Satan est vaincu, il n'est pas pour autant neutralisé. Et on en voit tous les effets dans notre monde. Par la volonté éternelle et divine, il est établi qu'Israël, en dépit des apparences et menaces, ne disparaîtra jamais. Vous savez ce que les ennemis d'Israël profèrent depuis les temps les plus anciens, dans le psaume 83, où il est dit ceci, cette parole que vous avez certainement lue à quelques reprises. Les hommes des nations inspirés par l'adversaire, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Et c'est bien encore le message que nous entendons encore aujourd'hui dans le conflit actuel entre les Juifs et les Palestiniens. Détruisons Israël. Alors il y a la Palestine, il y a comment il s'appelle là, monsieur, comment tu dis, ah oui, vous avez entendu, hein, ah, le président de l'Iran là, là il va falloir se familiariser avec un nom comme ça, hein. Vous savez, observons ce qui se passe dans notre monde, hein. Ouais. Et les menaces. Je crois qu'il n'y a aucun peuple qui a été, dont on refuse si longtemps l'existence ou la coexistence. À un moment ou à un autre, on est bien obligé de reconnaître des réalités culturelles, des réalités régionales, des réalités nationales, des réalités de toute politique. Mais Israël, jamais. Jamais. Venons et détruisons afin qu'on ne parle plus du nom. Bah, ils n'ont pas eu de chance, hein, ceux qui ont voulu finalement la mort d'Israël, parce que ça date quand même depuis pas mal d'années, et puis ça s'est jamais fait jusqu'ici. Hein. Même quand on croit finalement qu'Israël sortit des cendres des fours de concentration, eh bien voilà qu'Israël renaît. L'Exode, c'est pas pour rien, hein. Exodus. Cette nation jouera le rôle final de l'histoire de l'humanité, frères et sœurs. Et le diable, ne pouvant en avoir raison, se tournera avec une rage, nous dit le texte, Apocalypse 12, une rage redoublée vers la postérité, et j'ajoute l'adjectif spirituel d'Israël. Et la postérité spirituelle d'Israël, c'est quoi? C'est qui? Excusez-moi, plutôt c'est qui? C'est l'Église. C'est nous, tout simplement. L'Église, plus précisément les chrétiens, là encore, que de siècles d'acharnement pour détruire ou corrompre le peuple de Dieu. Mais Jésus a fait cette promesse que je vous laisse ce matin. Les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre mon Église. Et ça, ça fait partie des promesses positives que nous avons à garder dans notre cœur. On a détruit les temples à une certaine époque, les temples chrétiens. On a détruit les églises, on a persécuté les enfants de Dieu, on les a mis en prison, on les a spoliés, on les a envoyés aux galères, on les a mis au bûcher, on les a sciés, on les a coupés, on a fait tout ce qu'on a voulu, on a détruit la Bible, on l'a brûlée. Mais finalement, il y a une volonté dans le ciel, autant pour Israël que pour l'Église de vivre, et elle vivra. Parce que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église. Contre mon Église, nous dit Jésus. Alors gardez le témoignage, puisqu'il nous est dit que ceux qui retiennent le témoignage de Jésus, alors gardez le témoignage, c'est avant tout proclamer à la face du monde cette parole formidable d'Ésaïe que nous avons lue en entrée de culte tout à l'heure. Chapitre 9, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors depuis Bethléem, on peut dire, avec Apocalypse chapitre 12 et au verset 10, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, de l'enfant de Bethléem. Eh bien, nous avons pris en considération que finalement, Dieu avait dit vrai. Dieu a donné la vérité. Une vérité qui sauve, une vérité qui nous rachète, une vérité qui nous prépare pour une autre dimension. Alors Noël sur terre et Noël dans le ciel. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit. Et que nous soyons imprégnés de ces promesses merveilleuses de sa parole. Nous allons prier quelques instants, s'il vous plaît. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as projetés, Seigneur, dans une réalité invisible. Tu as dévoilé, tu as déchiré le voile qui nous cache le monde que nous ne voyons pas, ce monde du ciel, ce monde, Seigneur, où nous pouvons l'appeler le royaume des cieux. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que c'est vrai, Seigneur, que nous sommes un petit peu dans cette situation, un petit peu comme Job, où il y avait un défi entre Dieu et Satan, et l'enjeu était la tête de Job, était la foi de Job. Eh bien, l'Église, Israël dans un premier temps, et l'Église d'aujourd'hui, ceux qui gardent le témoignage de Jésus, nous sommes en effet dans cet enjeu, nous vivons sur la terre, alors que dans le ciel, eh bien, il y a des réalités, Seigneur. Mais nous avons confiance en toi. Le diable peut rugir, le diable peut être là, Seigneur, d'une grande violence contre la nation d'Israël ou contre le peuple de Dieu. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons un Dieu qui a posé sa main sur nous et qui nous garde et qui nous gardera. Oui, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que, eh bien, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église, nous as-tu dit, et nous voulons le garder dans notre cœur. Merci pour Noël sur la terre, mais merci aussi pour Noël dans le ciel. Louange et gloire à ton nom, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Amen.